Yoann Ouzaï.
Au mois d'octobre dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, était au Mureau pour parler de séparatisme et présenter un projet de loi visant à renforcer les principes de laïcité en France. Écoutez le président de la République.
Nous avons ce qu'on appelle un terrorisme endogène, dont les formes se sont hybridées et qui est aux confins, pour certains, des dérives qui viennent de l'islam radical, pour d'autres, aux confins de la psychiatrie et de la radicalisation politico-religieuse.
Laurent Nunez, 250 personnes qui sont en prison aujourd'hui, condamnées pour complicité de terrorisme, vont sortir de prison cette année, en 2021. Comment allez-vous surveiller ces 250 personnes? Et sur ces 250 personnes condamnées pour complicité de terrorisme, combien sont réellement dangereuses, dans le sens susceptibles de repasser à l'acte, d'être à nouveau complices de ces actes terroristes?
Alors d'abord, le chiffre que vous donnez n'est pas le bon. C'est pas 250. Il y a deux types de détenus. Il y a des détenus, ils sont en environ 500, on va dire, hein, qui ont été condamnés effectivement pour des faits de terrorisme, qui sont en détention. Et puis on a à peu près 900 détenus qui sont des détenus de droit commun, qui sont connus, dont la radicalisation s'est révélée en détention, qui sont suivis pour radicalisation.
Alors ça fait combien? Quel est le chiffre exact? On est
sur quelques dizaines de personnes qui sortent chaque année, qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme. Mais ce sont effectivement des individus qui nous inquiètent beaucoup.
Combien vont sortir en 2021? Pardon, j'insiste, c'est vraiment important.
J'ai pas le chiffre exact, hein, mais je crois que c'est de l'ordre d'une soixantaine, 60 à 70. Mais on affinera évidemment tout.
Alors,
ça, mais c'est de cet ordre-là. En tout cas, on n'est pas sur 250, ça je peux vous l'assurer. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé quand il est venu à la DGSI en fin d'année 2020. Il a rappelé que c'était clairement l'objectif prioritaire qu'il a signé au service, et à juste titre. C'est-à-dire que ce sont des individus qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme. Donc des individus, en même temps, qui ont purgé leur peine. On est quand même dans un état de droit, il faut quand même le rappeler accessoirement. Ces individus, évidemment, font l'objet d'une surveillance extrêmement étroite, plutôt majoritairement par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, c'est-à-dire la direction qui dispose de plus de moyens techniques. Donc il y a des surveillances qui sont effectuées par des moyens qu'il ne m'appartient pas de révéler au grand public. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que tous les individus sont suivis en détention depuis la montée en puissance et la création du service national du renseignement pénitentiaire, et en lien avec les services extérieurs comme la DGSI. Et ces individus font tous l'objet d'un suivi, et notamment au travers de l'application de la loi antiterroriste qui a été voulue et qui a été votée par le Parlement, voulue par le président de la République en octobre 2017, qui fait que nous astreignons d'ailleurs un grand nombre de ces personnes à des obligations administratives de pointage, d'interdiction de paraître dans un certain nombre, de se déplacer en dehors de certains périmètres. Et donc ces individus font l'objet d'un suivi
extrêmement exhaustif. Vous parlez du renseignement pénitentiaire. Effectivement, c'est la nouveauté. Ça fait deux fois que vous l'évoquez. Ça veut dire que l'importance du renseignement humain qui est revenu. Est-ce que ces méthodes d'infiltration dans les prisons que vous avez mises au point avec ce nouveau renseignement pénitentiaire produit déjà ses effets? Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement c'est à cet endroit qu'on peut commencer à juguler les comportements?
Non, mais évidemment, c'est un endroit qui est absolument stratégique pour essayer de comprendre d'abord les individus qui se radicalisent en détention. On sait très bien que la radicalisation, la détention, c'est un moment où certains individus, on l'a vu avec certains auteurs d'attentats, ont basculé dans la radicalisation.
Vous avez trouvé les candidats pour être infiltrés.
Nous avons des détenus qui purgent leur peine pour des faits de terrorisme. Alors après, les techniques suivant lesquelles le service du renseignement pénitentiaire, qui fait un travail remarquable et qui monte en puissance, les techniques qu'il utilise, il ne m'appartient évidemment pas de les révéler.
Vous savez très bien,
Michel Darmon, que les services de renseignement travaillent certes avec des sources humaines, mais heureusement pas que. Hein, le renseignement, c'est évidemment des sources humaines, ça peut être des moyens techniques encadrés par la loi. Il y a une loi de 2015.
Ça veut dire sur écoute.
Moyens techniques, c'est les écoutes, c'est la géolocalisation. Il y a plein de techniques qui sont toutes prévues par la loi, toutes autorisées par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Ce sont ces techniques qui sont utilisées par le service de renseignement pénitentiaire comme par tous les services de renseignement. Mais on peut pas limiter l'action des services aux seules sources humaines. Heureusement, même si c'est très important, et depuis l'arrivée du président de la République, nous veillons, et c'est une instruction forte que nous avons, à remonter en puissance sur ces sources humaines qui peut-être par le passé avaient été un peu négligées.